Résonance sur Radio B. Alain Goudard, bienvenue à toutes et à tous. Une émission réalisée, mise en onde par Simon Debord. Résonance a choisi de rendre hommage, tout au long de cette saison radiophonique 2020, aux 90 années de cheminement artistique du compositeur et poète Lucien Guérinel. En effet, celui-ci fêtera ses 90 ans en août prochain. Au cours de nos émissions, nous vous proposons d'aller à la découverte de l'œuvre de ce compositeur singulier qui se situe en dehors des courants dominants et dont l'originalité frappe l'auditeur. Aujourd'hui, une archive radiophonique. Puisque je vous propose de découvrir dans quelques instants la rediffusion d'une œuvre enregistrée sur Radio Provence Culture le 22 avril 1996, dans laquelle Lucien Guérinel répond aux questions de Nelly Aramburu à propos de la création du cycle Thébain au théâtre Gyptis à Marseille.
Nous y sommes donc, voilà, comme vous le disiez, on vous le disait à l'instant, nous sommes de nouveau dans notre rendez-vous hebdomadaire et nous avons le plaisir et l'honneur aujourd'hui de recevoir un musicien. Un musicien et pas n'importe quel musicien, un compositeur marseillais, Lucien Guérinel, qui nous fait donc le plaisir de partager quelques instants musicaux et toute son expérience et son émotion autour de la musique. Alors tout de suite, bonjour Lucien.
Bonjour.
Vous êtes donc l'invité pour une petite heure avec nous et j'espère qu'on va en profiter justement pour découvrir à la fois les sources de votre inspiration et aussi la manière dont vous travaillez, vous compositeurs qui êtes quelquefois si loin, et à la fois très connus du public et dans vos méthodes et dans votre travail si loin des foules. On va commencer justement par un disque que vous nous avez fait choisir, qui semble être un lieu d'inspiration. Hein. Et je parle d'Oana, justement. On a commencé déjà à nous la faire entendre, mais on va s'apesantir un petit peu sur ce choix. Vous m'aviez dit, lors d'un précédent entretien, que c'était parmi les compositeurs contemporains celui qui vous avait le plus ému, à la fois en tant qu'homme et en tant que, comment dire, metteur en scène de musique, enfin compositeur. Est-ce que vous pourriez m'expliciter ce choix ?
Oui, j'ai d'abord l'intérêt et l'amour même que j'ai pour la musique de Oana vient de son indépendance, du fait que cet homme a manifesté tout au long de sa vie une indépendance d'esprit tout à fait remarquable et elle s'est traduite dans les faits par une carrière distante des différents mouvements de notre époque. Mais cette distance n'était pas de sa part une récusation de ce que faisaient les autres, bien évidemment. Mais il a gardé sa culture, puisque vous savez que Oana est d'origine espagnole. Il est né au Maroc d'ailleurs. Et il a gardé véritablement une authenticité dans la source de son inspiration, de sa musique, de son être. Et ce n'est pas, si je peux me permettre cette expression, une musique rapportée par l'enseignement, par la pédagogie ou simplement par la connaissance du monde environnant, mais une véritable musique de culture profonde qu'il nous a exprimée et qui fait que son œuvre, quel que soit le sentiment qu'on peut éprouver à son égard, reste une œuvre tout à fait exceptionnel. Et puis, je dois dire également que j'ai été l'ami personnellement de Oana dans les dernières années de sa vie et que sa mort m'a laissé un vide profond.
Donc, Maurice Oana, qui s'était inspiré largement des musiques dites populaires, est-ce que ce type d'inspiration aussi est la vôtre ou bien vous considérez comme, comment dire, intéressé par l'œuvre, mais finalement sur des voies différentes ?
Oui, c'est vrai, je n'ai pas du tout la même démarche, à chacun la sienne. Les hommages qu'on peut rendre aux uns et aux autres n'empêchent pas qu'on a chacun une attitude, une dégaine, comme on a une démarche dans la rue. Et moi, je n'ai pas de référence populaire, non pas que je n'y trouve pas d'intérêt, mais je n'y ai sans doute pas trouvé matière à m'exprimer moi-même.
Très bien, alors nous allons écouter justement cet extrait que nous avons choisi, de Maurice Ohana. Oui, un court extrait, en tout cas significatif à la fois d'une tendance et d'une manière de travailler aussi la voix, les chœurs, l'orchestration chorale, chose qui, je crois, vous intéresse vivement puisque vous avez fait vous-même de multiples compositions autour de ce type d'orchestration et d'utilisation de la voix. Qu'est-ce qui vous pousse justement, puisqu'on parlait de l'émotion, à aller dans ce type d'utilisation de la voix humaine?
Ben, je dirais, après tous les autres, que la voix, c'est l'instrument par excellence, c'est le plus bel instrument pour la bonne et simple raison qu'il vient de l'intérieur, et ça, c'est le seul à venir de l'intérieur, c'est-à-dire de l'être, et son caractère immémorial est la réponse même sur la culture universelle de la prééminence de la voix sur les inventions sonores que les hommes se sont proposées. Et effectivement, l'exemple que nous venons d'écouter, pour bref qu'il soit, nous donne une onde de choc, je crois, auquel personne ne peut résister, parce que, comme c'est le cas dans Ohana, par exemple, il y a un caractère de cérémonial, un caractère liturgique, incantatoire, qui me paraît être un caractère fort de cette musique. Et c'est, je crois, l'attrait principal pour n'importe quel compositeur de donner à la voix cette résonance qui lui est propre, qui lui est naturelle, mais qui va dans ce sens-là, par opposition sans doute à certaines époques comme une partie du 19e siècle, où la voix est devenue un élément de décor, un élément une sorte de guirlande de salon en maintes occasions. Et le XXe siècle a complètement tourné le dos à cet aspect. Et je crois que c'est une bonne chose, quels que soient les sentiments qu'on peut éprouver sur l'utilisation moderne de la voix, enfin sur les utilisations modernes de la voix qui sont aussi variées que possible et sur lesquelles chacun garde son sentiment. Ce qui me concerne, l'utilisation que je fais de la voix reste une utilisation d'ordre classique, dans le sens que je ne propose pas à la voix humaine des chemins comme ceux qui sont très en vogue à l'heure actuelle et sur lesquels non plus je ne prononce pas d'anathème, mais qui n'entrent pas dans ma sensibilité personnelle, ce qui n'empêche pas, je le pense, et c'est au public à en juger, que l'utilisation que j'en fais n'est pas pour autant une utilisation fossilisée.
Je le sens comme ça en tout cas, et j'espère que nous allons avoir l'occasion d'écouter d'ailleurs vos propres productions. Vous nous avez aussi amené dans vos petits, valises, comment dire, vos poches, bien remplies, un autre compositeur dont vous m'avez dit le plus grand bien, qui est connu effectivement des amateurs de musique contemporaine, et vous me disiez qu'il était peut-être un petit peu oublié, en tout cas que l'époque en était oublieuse et que vraisemblablement ce compositeur resterait dans les annales pour le XXIe siècle. Ses descendants sauront reconnaître leur maître. Donc c'est un compositeur allemand, Ense, qui a cette capacité de composer énormément de symphonies, qui a travaillé donc sur un modèle aussi traditionnel de la musique classique. Comment pourriez-vous nous le présenter, ce compositeur ?
Hans Werner Ense est un compositeur très prolifique puisqu'il a, comme vous venez de le dire, écrit de nombreuses symphonies. J'ai même découvert récemment à Musicora qu'il en avait écrit une huitième. Moi, j'en étais resté à la septième, donc il en est à sa huitième symphonie, donc à l'orée de la neuvième. Et il a écrit de nombreux opéras, dont un au moins a été joué, représenté à Marseille dans les années 60-70, qui était le Prince de Hombourg. Mais c'est un important producteur d'opéra. Seulement, vous savez, l'opéra est un genre qui demande des moyens d'exception et par conséquent, on ne peut pas jouer les opéras aussi facilement qu'on joue un quatuor à cordes. Mais il n'en demeure pas moins que Ense est une des plus hautes figures de la musique contemporaine. C'est un homme qui, effectivement, par son esthétique, ou par ses esthétiques, j'oserais dire, parce que c'est un homme qui est, bien que allemand, n'a pas craint d'aborder les cultures exotiques, et sud-américaines, africaines. Donc c'est un homme parfaitement ouvert, comme beaucoup d'artistes contemporains, à tout ce qui se fait dans le monde. Donc il ne peut pas le considérer au sens traditionnel comme un compositeur allemand. Il n'en demeure pas moins que dans sa capacité à demeurer un très grand symphoniste, et vous allez en juger par l'extrait que vous allez proposer aux auditeurs, cet homme reste véritablement dans la haute tradition allemande avec une personnalité parfaitement distinguée, et surtout, ce qui est frappant pour moi, à mes oreilles de compositeur et à ma sensibilité d'homme, c'est que c'est un symphoniste qui entend sa musique. C'est-à-dire que c'est un véritable alchimiste de l'orchestre et il a une profusion d'idées et qui sont tout aussi originales les unes que les autres et qui me paraissent devoir assurer un lendemain à cet auteur.
Très bien, alors nous allons pouvoir en juger sur pièce, puisque c'est l'Allegretto con Grazia, qui est donc un extrait, le premier mouvement de la symphonie numéro 1 que nous vous proposons d'en écouter. Voilà, donc cet extrait de Anze, symphonie numéro 1, que nous avons eu la curiosité d'entendre avec vous, Lucien Guérinel. Et c'est vrai que parler de musique contemporaine dans une émission de jazz, c'est toujours un petit peu particulier, mais après tout, nous sommes là pour parler des musiques de notre temps. Et vous êtes en tout cas marseillais d'adoption, puisque vous êtes né à Grasse il y a de nombreuses années déjà. Je ne vous dirai pas exactement, il n'y a pas de...
rien à cacher.
Non, il n'y a rien à cacher, mais enfin... Toujours est-il que vous avez su, avec beaucoup de pertinence, mener de front une carrière professionnelle qui était loin d'être musicale et continuer, proprement dit, la composition, le travail de compositeur. J'aimerais que vous me rappeliez assez rapidement enfin, ce qu'a été ce parcours, justement, et ces rencontres successives autour de la musique.
Je n'ai aucune peine à vous répondre rapidement, puisque mon parcours est des plus simples. Et je dirais presque par boutade que je n'ai pas de parcours. En ce sens que je ne peux absolument pas me référer, comme l'ensemble des compositeurs, à un cursus musical que je qualifie d'officiel, c'est-à-dire qui passe par les grandes écoles de musique, par des titres, des médailles, des récompenses. Non, je n'ai rien de tout ça parce que j'ai mené, par la force des choses, par le destin qui a été le mien dans ma famille, et puis le mien personnel, je n'ai pas été amené à suivre cette voie-là. Mais... mon parcours, donc, si vous voulez, reste quelque chose de très personnel, dans le sens où il n'a pratiquement pas eu de relation avec les autres, avec un enseignement donc public. Et ce n'est que finalement mon goût personnel, ma passion, et qui m'a maintenu sur une voie qui, malgré tout, perdure, puisque je termine ma vie avec cet art comme seul mode de pensée, si je puis dire. Donc la musique m'a accompagné tout le long de ma vie, ne m'a jamais quitté, et ça ne m'a pas empêché, avec malgré tout quelques rencontres de musiciens éminents qui m'ont apporté leurs conseils et leur savoir, de faire ce que j'ai pensé pouvoir faire et que je continue de faire.
Oui, un travail qui est difficile quand on est en province et qu'on n'est pas à Paris, à la fois proche des centres de diffusion, des centres aussi de reconnaissance finalement, qui donnent peut-être un caractère un petit peu tardif à la reconnaissance dont vous êtes actuellement l'objet finalement.
C'est vrai, la France et puis peut-être les autres pays aussi, mais je n'en parle pas parce que je ne les connais pas, donc parlons de chez nous. La France est un pays difficile, la centralisation parisienne qui est une chose que tout le monde connaît, et que l'évolution politique vers les régionalisations n'a quand même pas complètement annulé, ce qui est d'ailleurs peut-être une bonne chose, parce qu'une capitale, ça va bien servir à quelque chose dans un pays. Mais c'est un pays difficile dans le sens où les distances sont plus importantes sur le plan social, sur le plan humain, que sur le plan géographique. Et c'est forcément un handicap pour tous les gens qui ne sont pas à Paris. Cela dit, vous savez, on peut composer à Paris et n'avoir aucune relation avec personne. La solitude est quand même quelque chose qu'on rencontre partout et surtout dans les grandes villes, donc dans la capitale comme ailleurs.
La musique n'est quand même pas un art solitaire, ce n'est quand même pas l'art du peintre dans son atelier. Et vous êtes quand même... obligé, du moins il me semble, même dans ces temps où la diffusion est largement répandue, on peut se procurer effectivement des documents qui auraient pu être rares à une époque, tout de même, vous avez un besoin certainement de cette rencontre.
Ne serait-ce déjà que parce que la musique ne vit que par les interprètes. Voilà. La peinture n'a pas besoin d'interprète, le sculpteur n'a pas besoin d'interprète, ils ont besoin d'un lieu, ça sûrement, mais pas d'interprète. Donc la relation avec les interprètes est déjà... un échange social qui nous enlève la solitude fondamentale. Et ça, c'est une excellente chose. Donc, cette relation sociale, elle est aussi intéressante et aussi importante. En tout cas, elle pèse du même poids qu'elle soit à Paris, à Marseille ou à Lille. Et ça, c'est un élément d'intérêt. D'abord parce que ça permet aussi d'avoir un caractère évolutif et vivant, puisque c'est un art qui est formé par les autres, qui est pratiqué par les autres.
Alors justement, cette distance particulière dont on parle par rapport à l'objet, finalement, notamment la pratique, même si on possède un piano, et je vais vous en avoir un très beau chez vous, On est quand même loin du travail quotidien du musicien d'orchestre. Et est-ce que ce contact est ou nécessaire? En tout cas, est-ce qu'il vous manque? Comment vous vous débrouillez justement pour rester en pleine prise avec la production proprement dit musicale?
Et là, je suis forcément tributaire des sollicitations qui me sont faites parce que pendant de très nombreuses années, par exemple, j'ai composé uniquement sur mes propres intentions, sans chercher autre chose que ça. Et puis, la vie passant, l'expérience des autres aidant, et il m'a bien fallu quand même réaxer un petit peu ce que je faisais vers, si vous voulez, les échanges possibles avec d'autres, que ce soit des ensembles instrumentaux ou des organisations.